Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Quand on entend prononcer le nom d'Hannibal, on pense tout de suite à des éléphants qui traversent les Alpes. Alors ce n'est pas faux, nous dit Franck Ferrand, c'est seulement très incomplet. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Hannibal est bel et bien venu conquérir une partie de l'Europe avec ses éléphants, exactement 50 000 Carthaginois qui partent d'Espagne et franchissent les Pyrénées puis les Alpes avec 37 pachydermes. Mais cette image d'Épinal est loin de résumer le génie stratégique de ce très grand chef militaire.
Car Hannibal était un stratège de la dimension, dites-vous, d'Alexandre ou de Jules César.
Ah mais ce n'est pas moi, ce sont les historiens de l'Antiquité qui le disent. Les batailles de Cannes, Cannes rien à voir avec la ville du festival, et un certain nombre d'autres, restent des modèles enseignés aujourd'hui encore dans les écoles militaires. Le seul tort d'Hannibal au regard de l'histoire, et la raison pour laquelle nous le connaissons si mal aujourd'hui, c'est de n'avoir été finalement ni grec ni romain. Hannibal était un enfant de Carthage, eh bien c'est une bonne occasion pour nous de parler un peu pour une fois de la belle civilisation carthaginoise.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Étaient-ils ces gens de Carthage? On a des phrases toutes faites à l'esprit. Il faut détruire Carthage. Vous savez, Delenda est Carthago, c'était le leitmotiv de Caton l'Ancien. On pense aussi à la première phrase du Salammbô de Flaubert. C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. En fait, quelle réalité se cache derrière ce nom mythique? D'abord, voyez où ça se trouve, Carthage. C'est un endroit béni des dieux dans le nord de la Tunisie actuelle, pas bien loin de Tunis. L'air y est sain et doux. La lumière d'une finesse inégalable, la végétation magnifique et puis surtout, le sol est saturé de vestiges archéologiques. Les fûts de colonnes là-bas servent aux habitants de tabourets de jardin, figurez-vous. Alors, parmi tous ces vestiges, il y en a beaucoup qui sont romains, bien sûr, mais une partie provient des Phéniciens. Pourquoi les Phéniciens, dont on sait qu'ils avaient le commerce dans la peau? Eh bien, c'est toute l'histoire de Carthage. Tout a commencé environ 1000 ans avant notre ère, au moment où les comptoirs phéniciens de l'actuelle côte syrienne et libanaise, et notamment Tyr et Sidon, ces comptoirs sont devenus si prospères et si ouverts sur le monde méditerranéen qu'ils se sont mis à essaimer de plus en plus en direction de l'ouest. La colonie de Carthage, en phénicien Carth Adasht, ce qui veut dire la ville neuve. Ce comptoir d'Afrique du Nord a été fondé aux alentours de l'an 800 avant notre ère. On avance toujours la date mythique de 814. Et ce comptoir, eh bien, il a prospéré en même temps que les colonies phéniciennes de Sicile, de Sardaigne, de Corse et puis d'Espagne. Carthage va bientôt incarner une civilisation très avancée, avec un urbanisme incroyable dont on a malheureusement perdu la plupart des traces, avec une organisation politique exemplaire qui n'a rien à envier aux cités grecques de la même époque, avec aussi un art longtemps négligé par les Grecs et leurs descendants et pourtant très brillant. Avec, il faut bien le dire, parce qu'il ne faut pas négliger cet aspect non plus, avec une religion étrange aussi, qui n'excluait pas les sacrifices humains, et notamment sur les autels de Tanit et de Baal, les meurtres rituels d'enfants. Toute lumière, si je puis dire, connaît sa part d'ombre. Sur ce point précis, il semblerait qu'on puisse soupçonner les anciens Romains d'en avoir rajouté à dessein. Car à partir du IVe siècle, la toute nouvelle puissance romaine est entrée d'abord en Italie et en Sicile, est entrée en concurrence avec la puissance carthaginoise et forcément les auteurs classiques, nos bons vieux auteurs historiques, n'ont pas été tendres avec les Carthaginois. En 264 avant Jésus-Christ, l'intervention des Romains dans les affaires de Sicile provoque la première guerre punique. Pourquoi dit-on punique ? Ça vient du latin poeni, ça désignait tout simplement les Carthaginois. Donc ça a l'air d'être des mots quand on dit comme ça les guerres puniques. Tout de suite on se croit sur les bancs de l'université.
Très compliqué.
Oui, ben en fait c'est tout simple. Hein. Quand on dit les guerres puniques, ce sont les guerres carthaginoises. Ce sont les Romains qui l'emportent lors de cette première guerre punique, lors d'une bataille navale aux îles Égates. Et puis les Romains parviennent à évincer les Carthaginois de Sardaigne. C'est pour compenser ce recul que le grand général Hamilcar se lance dans la conquête de l'Espagne, une Espagne riche notamment en minerais d'argent, une Espagne où va lui succéder son gendre qui s'appelle Hasdrubal. C'est Hasdrubal qui fonde Carthagène en 227. Carthagène, c'est la tête de pont espagnole des Carthaginois, si vous voulez. Donc, Carthagène est fondée en 227 par Hasdrubal. Et puis, après Hamilcar et Hasdrubal, celui qui succède, c'est Hannibal. Nous y voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi l'épopée d'Hannibal ne prend tout son sens que replacée dans le contexte de cette lutte à mort entre Rome et Carthage, ce conflit qui se prolonge d'une génération à l'autre et qu'on appelle donc les guerres puniques. Alors, si on doit résumer, les Phéniciens de Carthage veulent coloniser les côtes de toute la Méditerranée de l'Ouest, celle de la Sicile, c'est l'occasion donc de la première guerre punique, puis celle de l'Espagne. De leur côté, les Romains, qui avaient déjà achevé à ce moment-là toute la conquête de la péninsule, de l'Italie, veulent s'agrandir outre-mer. Forcément, ça allait coincer quelque part. En 219 avant notre ère, le tout jeune Hannibal, il n'a même pas 25 ans à l'époque, Hannibal, qui se trouve maintenant à la tête du corps expéditionnaire carthaginois, prend en Espagne la ville de Sagonte. Sagonte, c'est une colonie de Marseille qui jusqu'alors se trouvait sous le lointain contrôle de la République romaine. C'est un motif de guerre, cette prise de Sagonte par Hannibal, évidemment. Et d'autant plus que le Sénat de Carthage, qui a été ébloui par le butin que lui a adressé Hannibal à la suite de cette victoire, le Sénat carthaginois donne carte blanche à son jeune général. Ça, c'est l'annonce d'une nouvelle guerre punique. Or, si vous me passez l'expression, il en veut, Hannibal. Déjà tout jeune, à l'âge de 9 ans, son père lui a fait jurer sur l'autel des dieux familiaux qu'il vouerait jusqu'à sa mort une haine irréductible aux Romains. Eh bien, croyez-moi, il va mettre tout son génie dans la balance, les Romains vont pouvoir serrer les rangs. Alors voilà le bouillant Hannibal, il a 28 ans maintenant, décidé à porter la guerre sur le sol même de l'Italie. Alors pour le moment, il est en Espagne, vous avez bien compris. Il va donc lui falloir franchir d'abord les Pyrénées, ce qu'on a souvent tendance à oublier. Et puis il va traverser tout le sud de la Gaule, peuplé quand même de Gaulois pas forcément accueillants. Il ira jusqu'au Rhône. Alors là encore, tout ça, ça fait pas mal d'obstacles évidemment. Et puis il va lui falloir bien sûr franchir les Alpes. Ça fait déjà tout ça à vol d'oiseau quelques 700 kilomètres. Et même au-delà des Alpes, il y aura d'autres obstacles. Il y aura encore le Pô, les Apennins, etc. Je ne sais pas si vous réalisez l'extrême difficulté d'une telle entreprise. Même si Hannibal, qui préfère la qualité à la quantité, qui a compris l'utilité de disposer d'une armée très fiable et assez mobile, même s'il a réduit son armée au maximum, c'est-à-dire qu'il n'a que 50 000 hommes avec lui, il faut quand même pouvoir déplacer une telle masse humaine. On dit comme ça 50 000 hommes, vous savez, ça a l'air toujours d'être une ligne dans un livre d'histoire. En réalité, c'est la population d'une ville moyenne qu'il s'agit de transporter avec tout ce qui va autour. Il faut la nourrir aussi, il faut tout le ravitaillement. De plus, l'armée carthaginoise est composée d'éléments très hétéroclites, pardon, il faut bien le dire, dans le sens du mot. Il y a des fantassins basques et africains, il y a des cavaliers espagnols et numides, sans parler des fameux frondeurs baléares, ceux qui projettent sur l'adversaire des lingots de plomb fondus. Et puis j'allais oublier quand quand même les éléphants, les fameux éléphants d'Afrique qui sont un petit peu les engins blindés d'Hannibal, une petite quarantaine de pachydermes, des animaux qui sont bien sûr extrêmement exotiques en Europe. Vous imaginez quand ça arrive, ces animaux avec leur défense impressionnante, ils sont caparaçonnés de pieds en cap évidemment, ils portent des armes, c'est vraiment, ce sont les blindés de l'époque. Le but de ces éléphants, disons-le, il est essentiellement de terrifier un adversaire assez peu habitué à les voir débarquer sur le champ de bataille. Dès avril 218, c'est-à-dire 6 mois après la prise de Sagonte, cette armée impressionnante se met en marche. Elle traverse donc les Pyrénées du côté du col du Pertus. Elle traverse ce qui est actuellement notre Languedoc-Roussillon. Elle franchit le Rhône à peu près au niveau d'Arles. Et la voilà qui remonte la vallée de l'Isère pour aller se trouver dans les Alpes. Alors, il y a là quand même des attaques. Hein. Les Allobroges, notamment, ne laissent pas faire facilement Hannibal. Les pertes sont lourdes. Je n'ai pas le temps d'entrer dans tous les détails d'une expédition qui ne cessera d'être constamment semée de batailles. Mais tout ça est dur, bien entendu. Hannibal va laisser son armée se reposer un temps à Coularo, à Grenoble, devrais-je dire. Et puis, le voilà qui va enfin franchir ces Pyrénées. Alors on raconte, c'est Polybe qui nous raconte ça, vous savez, cette anecdote du vinaigre qui aurait été utilisé. On est au moment des premières neiges utilisées pour élargir certains passages. On verra tout à l'heure ce qu'il faut penser de toutes ces mentions des historiens antiques. L'essentiel pour nous, c'est de savoir que en 218, en décembre déjà, Hannibal débouche en Italie aux environs de la Trébie, qui est un affluent du Po. Premier contact avec les légions romaines qui sont là, qui attendent de pied ferme. C'est toujours impressionnant, ces batailles antiques. Hein. On voit ces armées très, très nombreuses, très aguerries, qui s'installent et qui attendent l'adversaire comme ça. En l'occurrence, Paul, dans le premier affrontement avec les Romains, c'est une victoire massive d'Hannibal. 30 000 Romains sont tués et Hannibal continue sa progression. Printemps 217, on compte à l'envers, hein, bien sûr, puisqu'on est avant Jésus-Christ. Printemps 217, il avance droit au sud, il franchit les Apennins, il traverse l'Arno. Là, on est dans une région, bien sûr, des grands marécages, vous savez, et il va y avoir beaucoup de pertes dues à des épidémies, des maladies diverses. La plupart des éléphants d'Hannibal meurent dans ces marécages. Ce devait être un spectacle terrifiant, impressionnant, poignant. Nous sommes avec Hannibal et au temps de ces grandes batailles antiques dans ce que l'épopée humaine peut peut-être nous offrir aujourd'hui de plus impressionnant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et nous sommes sur Europe 1 au cœur des grandes batailles antiques aux côtés d'un très grand chef militaire stratège, le Carthaginois Hannibal.
Alors pour ce qui est des grandes batailles, vous allez être servi Julia, le 21 juin 217 avant notre ère, le long du lac de Trasimène, ça c'est un nom que connaissent évidemment les spécialistes de l'histoire antique, Hannibal va trouver une occasion favorable. Il surprend le consul romain Flaminius dans un endroit, dans une position qui est assez encaissée. C'est un des secrets d'Hannibal, c'est qu'il a le don extraordinaire d'aller choisir le bon terrain, d'être au bon endroit. Flaminius ne peut pas déployer ses légions et sa cavalerie, il est coincé, il est étranglé, si je puis dire, et Hannibal en profite pour massacrer littéralement l'armée romaine. Les pertes romaines sont colossales, les pertes carthaginoises dans cette affaire sont relativement bénignes. Et après cette victoire, Hannibal repasse les Apennins et il se met à piller la région et surtout il se met à recruter. Parce que s'il est venu avec une armée de conquête limitée, il lui faut, s'il veut avoir une chance un jour d'investir Rome, il lui faut recruter le plus possible, sur place même, de soldats, bien entendu. À Rome, on ne se laisse pas faire, le Sénat est aux abois et on va charger le chef d'une des plus anciennes familles de la noblesse qui s'appelle Fabius de prendre le commandement. On lui vote des pouvoirs étendus, il va devenir une sorte de dictateur et Fabius évidemment très vite se lance contre Hannibal et contre ses troupes avec une tactique qui est largement ce qu'on appellerait nous aujourd'hui de la guérilla. On harcèle constamment les Carthaginois à chaque fois qu'on le peut, on essaie de couper toutes les voies qui leur permettent de se ravitailler, on essaie d'affamer, de harceler, de fatiguer Hannibal, tout simplement. Hannibal qui du coup est obligé de remonter le plus possible vers le nord-ouest. C'est à ce moment-là que va intervenir la célèbre bataille de Cannes. On est donc là au printemps 216. On peut dire que la chance est avec Hannibal. Deux nouveaux consuls à ce moment-là ont remplacé Fabius. L'un d'eux, c'est Varron. C'est lui qui décide d'attaquer. Hannibal voit se profiler la confrontation et il vient se placer face aux Romains. Alors, la supériorité est vraiment dans le camp des Romains. Hein. Il y a 40 000 Carthaginois contre 80 000 Romains. Et pour ce qui est de la cavalerie, 10 000 cavaliers carthaginois contre seulement 6 000 Romains. Donc Hannibal a une supériorité de mouvement. Hannibal range son armée en croissant. La faiblesse est au centre. On connaît évidemment la tactique habituelle des Romains et Hannibal la connaît mieux que quiconque. Il va dans cette affaire. On reviendra, si vous voulez, tout à l'heure en détail sur cette bataille de Cannes qui reste le plus haut fait d'armes d'Hannibal. Mais sachez d'ores et déjà que c'est une victoire considérable. Dans cette affaire, 50 000 Romains environ sont tués, 15 000 sont faits prisonniers et l'on ne relève que, et même pas d'ailleurs, moins de 5 000 Carthaginois morts. C'est une victoire magnifique, écrasante, qui va servir de modèle aux stratèges de tous les temps. Napoléon, bien sûr, mais aussi von Schlieffen se réclameront de la victoire d'Hannibal à Cannes. Et mieux que ça, pendant la dernière guerre mondiale, au lendemain de la bataille de Stalingrad, figurez-vous que le chef d'état-major du général Rokossov va expliquer aux reporters de guerre qui sont présents sur place que Stalingrad a été la réédition de l'exploit d'Hannibal. Et l'un des journalistes va s'écrier « C'était bizarre d'entendre cet ancien paysan de Yaroslav évoquer la bataille de Cannes ici, en pleine steppe du Don, comme s'il s'était mis soudain à réciter du Tite-Live. » Hannibal a donc mené sa plus grande bataille, obtenu sa plus grande victoire, reste maintenant à l'exploiter. Et ça, c'est une autre affaire. Comme va le lui dire un de ses lieutenants, Maharbal, « Les dieux n'accordent pas tous leurs dons à un seul homme. Tu sais vaincre Hannibal, mais tu ne sais pas profiter de la victoire. » En l'occurrence, au lieu de fondre sur Rome, eh bien Hannibal, on peut dire pourtant que plus rien ne l'empêche de fondre sur Rome, là maintenant la voie est libre, eh bien il va préférer reconstituer ses troupes et décider pour des raisons politiques de leur accorder quelques mois de répit à Capoue. Il faut vous dire qu'il s'est entendu à ce moment-là avec Capoue, les bourgeois, les citoyens même de la ville ont proposer une alliance à Hannibal, qui l'a accepté. Il fait à ce moment-là route au sud pour essayer de renouer la liaison maritime avec sa métropole. Ce sera l'époque du siège de Naples qui résiste vaillamment. À ce moment-là, Fabius reprend son vieux harcèlement et la coup de théâtre. Carthage, la ville-mère, va faire faux bond. Le Sénat carthaginois ne suit plus le jeune Hannibal dans sa fièvre de conquête. Or, il faut savoir que simultanément, les Romains ont eu le temps de revenir en Espagne, qu'ils ont réussi à bloquer le flux de métal qui avait été instauré autrefois par Hamilcar. Et donc, à ce moment-là, c'est un appauvrissement considérable et c'est une mise en danger pour Hannibal. En Sicile, simultanément, les Romains s'emparent également de Syracuse. C'est le moment où va être tué le célèbre savant Archimède, vous savez. Or, Fabius convainc le Sénat romain de mettre le siège devant Capoue. Il va y user ses forces, en vérité, sans véritable victoire, en tout cas sans victoire décisive. En 211, Hannibal, il a maintenant 36 ans, voyons, on avance dans le temps, bien entendu. Hannibal décide de foncer sur Rome, mais en vérité, il va rôder autour des remparts de Rome. On le voit, en tout cas, c'est ce que nous racontent les historiens romains et grecs. On le voit faire le tour des remparts pendant 5 jours. Il faut dire qu'il est appelé de partout. Ça va mal pour les Carthaginois. Capoue se rend, c'est un terrible massacre. Pendant 3 ans, cette guérilla incessante de Fabius vers le sud va permettre peu à peu aux Romains de reprendre du terrain. Le frère d'Hannibal, Hasdrubal, est accouru d'Espagne en dépit de Scipion qui lui était venu de Rome. Je vais très vite dans toutes ces histoires, mais c'est pour vous montrer qu'on est dans une sorte de guerre totale entre Rome et Carthage. Hasdrubal voulait rejoindre son frère, bien entendu. Seulement, il est enveloppé par l'armée d'un consul romain. Il est tué et on va couper la tête du frère d'Hannibal et la jeter, nous dit-on, aux pieds d'Hannibal qui se trouvait devant sa tente pendant une nuit. Il est devant sa tente, il voit arriver comme ça, rouler à ses pieds la propre tête de son frère. En Espagne, Scipion est devenu le maître. Il convainc le Sénat d'aller soigner le mal à la racine, si je puis dire, en tentant un débarquement en Afrique. Alors ça va mettre du temps, hein. C'est en 204 seulement qu'il est autorisé à partir. Or, Hannibal, à ce moment-là, ne contrôle plus qu'une toute petite portion du territoire qu'il avait commencé par gagner dans la péninsule italique. Et c'est l'époque où Carthage, aux abois, le rappelle. Le Sénat de Carthage rappelle Hannibal. Au printemps, au début de l'été 202, il prépare son armée et c'est là que va intervenir la célèbre bataille de Zama où Hannibal, cette fois, est carrément vaincu. Il est si bien vaincu qu'il va devoir s'enfuir. On le verra passer en Égypte. Il va travailler au service d'Antiochus, qui est le roi de Syrie, qui descend d'un des généraux d'Alexandre le Grand. Les Romains vont parvenir peu à peu à le cerner. On est là quand même 20 ans plus tard. Hein. Je vais extrêmement vite en besogne, il faut bien le dire. On est en 183. Il est à ce moment-là chez le roi de Bithynie, qui le livre. Hannibal, se rendant compte qu'on allait le remettre entre les mains des Romains, écrit Habib Boularès dans la très belle biographie, même un peu plus que biographie, qu'il consacre au général carthaginois. Hannibal se rendant compte, donc, constatant que sa demeure était encerclée et toutes les issues bloquées, décida de mettre fin à ses jours à l'âge de 64 ans. Il prit le poison qui ne le quittait pas ou que, selon une autre légende, son domestique portait toujours sur lui. Suprême défi à l'adversité ou acte de résignation, se demande Habib Boularès. La mort volontaire est le seul acte par lequel on donne à une vie sa dimension tragique. Albert Camus écrivait que c'est le seul problème sérieux. Ce sera ironie de l'histoire, ajoute encore Habib Boularès. C'est cette même année 183 que va mourir Scipion l'Africain, le vainqueur de Zama, en son domaine près de Naples, où il s'était retiré après avoir été honteusement mis en cause par Caton pour sa gestion en Grèce. C'est lui et non Hannibal qui fit inscrire sur sa propre tombe cette épitaphe « Ingrate patrie, tu n'as pas même mes os ». Cette chute d'Hannibal, qui s'est lui-même empoisonné, connaîtra un épilogue tardif. Près de 40 ans plus tard, Carthage sera véritablement détruite, cette fois au cours d'une troisième guerre punique. Et cette chute de Carthage consacrera l'hégémonie de Rome sur le vieux monde. Et l'on ne peut s'empêcher de se poser dès lors la question, et si Hannibal l'avait emporté? Et si Hannibal avait poussé son avantage au moment où il était en train de l'emporter partout sur les Romains, s'était rendu maître de Rome? Eh bien, sans doute, toute notre civilisation, tout notre vieux monde, tout ce vieux bassin méditerranéen en aurait été changé. On ne va pas faire d'histoire fiction à ce micro. Mais en tout cas, on ne va pas faire d'uchronie comme c'est la mode de le faire en ce moment, mais on ne peut s'empêcher de se poser cette question. Et cette question, je vais la poser dans un instant à mes deux invités, à Habib Boularès qui est avec nous et à Sandrine Crouzet. Nous nous retrouvons avec eux donc dans un instant pour voir ce qui aurait pu se passer, mais aussi pour revenir sur tout ce qui a eu véritablement lieu.
Et nous vous retrouvons, Franck, avec vos invités sur Europe 1. Vous l'avez cité, Habib Boularès, qui est journaliste, écrivain et homme politique tunisien, auteur notamment de la biographie d'Hannibal aux éditions Perrin. Également avec nous, Sandrine Crouzet, qui est historienne spécialiste des guerres puniques et des échanges interculturels en Méditerranée occidentale.
Bonjour à tous les deux, merci. Bonjour. De nous avoir rejoints. Habib Boularès, vous connaissez mieux que quiconque Carthage, évidemment, et sa civilisation. Hannibal, si j'ose cette expression triviale, est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il ne faudrait pas, en parlant d'Hannibal, qu'on oublie de parler de tout le reste, tout de même.
Mais absolument, d'autant plus que ce qu'on appelle la guerre d'Hannibal, c'est la deuxième guerre dite punique, mais en fait, elle illustre la course qu'il y avait en ce moment-là pour dominer la Méditerranée entre Carthage et Rome.
Ce sont toujours les vainqueurs qui écrivent l'histoire et nous sommes habitués à voir les choses du point de vue romain et grec. Finalement, ce sont seulement des historiens romains et des historiens grecs qui nous parlent d'Hannibal, des Carthaginois et de toutes ces guerres puniques, Sandrine Crouzet.
Alors effectivement, peut-être que, enfin pas peut-être, sûrement d'autres historiens en ont parlé aussi. Malheureusement, lors de la prise de Carthage, après la Troisième Guerre punique en 146, la cité a brûlé et les livres de la bibliothèque de Carthage ont été distribués en Afrique et on ne les a jamais retrouvés. Donc on n'a que des bribes de cette histoire parallèle qui nous manque pour restituer l'histoire entière.
Et puis de l'autre côté, les historiens de la rive nord, eux aussi ont écrit et leurs écrits ont été perdus sur beaucoup de plans. Et il y a Tite Live qui a lu pas mal des documents des historiens qui l'avaient précédé, et heureusement, parce qu'il nous en a conservé quelques-uns sous forme d'extraits. Il y a Polybe, le grec, qui a aussi conservé pas mal de choses.
Vous citez Polybe et le portrait qu'il nous donne du général Hannibal. Comment pourrait-on, écrit le grand historien, ne pas admirer la science du commandement, la vaillance et l'habileté dont Hannibal fit preuve dans ses campagnes lorsqu'on considère le temps que dura cette guerre, le nombre des engagements partiels et les grandes batailles qu'il a livrées, tous les sièges qu'il a menés, toutes les cités qu'il a fait passer dans son camp, les situations critiques dans lesquelles il s'est trouvé lorsqu'on mesure l'ampleur de toute son entreprise et l'étendue du champ d'action qui fut le sien au cours de la lutte que pendant 16 années et sans interruption, il a menée contre les Romains en Italie, maintenant continuellement ses troupes en campagne à la façon d'un bon capitaine de vaisseau, évitant toutes les dissensions et toute révolte contre son autorité parmi cette masse d'hommes de nationalité et même de race différentes. Ce n'est pas un historien moderne qui le dit, c'est Polybe lui-même.
C'est Polybe, non, mais je voudrais tout de même dire à ceux qui ne sont pas familiers avec cette partie de l'histoire que Polybe était un affilié à la famille de Scipion.
En plus, oui, c'est vrai,
c'est
au grand ennemi d'Hannibal.
C'est quelqu'un qui est du côté de Scipion et qui va assister d'ailleurs à la destruction de Carthage en 146 avant Jésus-Christ. Et donc son témoignage en faveur de Hannibal, c'est le témoignage d'un admirateur, c'est évident.
Je n'écoute, disait Louis XIV, du mal des gens que lorsque ce sont leurs amis qui en parlent, ou du bien quand ce sont les ennemis. Et quand Polybe dit du bien d'Hannibal, on ne peut que le croire. Et ce qu'il nous dit notamment, c'est qu'Hannibal a ses qualités qui sont quasiment au-delà de celles d'un général, d'un stratège. On va revenir évidemment sur la victoire de Cannes, sur la défaite de Zama, etc.
La personnalité d'Hannibal.
Mais sur la personnalité, c'est ça. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous dit qu'il était capable de maintenir une très grande cohésion dans des armées par ailleurs très hétéroclites et qu'il était capable de s'assurer l'alliance de cités très diverses. C'était aussi un diplomate.
Mais absolument, il faut souligner, et là Polybe le souligne, que pendant 16 années de présence en Italie, son armée n'a jamais connu d'émeute,
dissidence. C'est incroyable,
alors
fort.
Que même l'armée romaine, on a connu une en Espagne. C'est dire que il y a un rayonnement de la personnalité d'Hannibal qui est extrêmement fort. Extrêmement fort.
Alors, reprenons les choses dans l'ordre, si vous voulez, parce que j'ai été obligé, moi, de survoler toute cette vie et toute cette incroyable épopée d'assez haut, bien entendu, pour avoir le temps de couvrir ce qui est une véritable vie de commandement. Mais au départ, quel était le but? Il part vraiment du sud de l'Espagne, Sandrine Crouzet.
Alors, effectivement, il part de Sagonte, puisque vous en avez parlé. Hein,
il a pris Sagonte.
C'est le siège de Sagonte qui débute la Seconde Guerre punique.
Colonie marseillaise, donc, au
exactement.
Départ.
Pas tout à fait. Une petite rectification, quand même. Sagonte n'était pas une colonie marseillaise. Elle était l'amie de Rome.
Elle devient l'amie de Rome au moment où elle est assiégée par Hannibal.
Un petit calcul
diplomatique.
Oui.
Mais c'est bien les Phocéens qui l'avaient créée, tout de même, rassurez-moi.
Disons qu'elle s'était détachée, c'était quand même une cité indépendante.
Bon, alors d'accord. Voilà. En tout cas, elle est l'alliée de Rome, elle tombe aux mains d'Hannibal et c'est de là qu'il va partir.
Et c'est de là, alors c'est de là qu'il part, il part même d'un petit peu plus loin, puisqu'en fait, il initie son voyage en partant de l'actuel Cadix, qui était l'antique Gadès, qui était une colonie phénicienne et dans laquelle se trouvait un temple à Melkarth, qui est l'équivalent phénicien du héros Hercule. Et c'est en fait de Cadix qu'il part, et ensuite il suit effectivement cette voie que vous avez décrite en traversant les Pyrénées, en suivant le sud de la Gaule, et puis en traversant les Alpes, reprenant cela ce qu'on appelle la voie herculéenne, c'est-à-dire le trajet d'Hercule.
C'est-à-dire Hercule est le personnage fondateur des civilisations méditerranéennes. On le retrouve dans tous les grands mythes. On pourrait essayer de le dater, je sais pas moi, de quoi, 7, 8, 9 siècles avant notre ère, en tout cas si tant est qu'on puisse dater un mythe, mais c'est très difficile à dire. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien de la part d'Hannibal la volonté de s'inscrire dans ce mythe, dans cette légende herculéenne. Il est le nouvel Hercule en fait.
Exactement, il est le nouvel Hercule d'abord parce que c'est une divinité qui est partagée par tous les peuples de Méditerranée, enfin, en tout cas en Méditerranée occidentale. C'est un culte qui est très fort parce que c'est un héros qui est lié à la colonisation, et on est vraiment dans une zone de colonisation multiple, grecque, phénicienne. Et puis c'est un héros qui parle également aux Celtes, c'est-à-dire à ces populations que Hannibal veut rallier en chemin pour accroître son armée. Et c'est une population c'est un héros qui va parler également aux populations grecques qui sont dans le sud de l'Italie. Donc en fait, c'est un discours universel. Utiliser Hercule, c'est utiliser un vecteur universel qui va lui permettre de rassembler tout le monde.
Et il faut souligner à ce propos que Hannibal a eu un précepteur grec.
Et oui.
Exactement.
Si son père lui avait donné un formateur grec, qui fait que Hannibal était polyglotte. Il parlait le grec, lisait le grec. Il était très impressionné par les aventures d'Alexandre.
Ce n'est pas le barbare hirsute qu'on voudrait parfois, je crois.
Non, absolument pas, absolument pas. Et d'ailleurs, sa connaissance du grec va effectivement, comme le dit madame, lui servir après en Italie, où il aura tout le temps des relations avec le côté grec de la Sicile.
Parce que la Rome de l'époque n'est pas encore aussi constituée que celle que nous avons à l'esprit. Si vous permettez, Habib Boularès, j'aimerais qu'on revienne d'abord à la traversée des Alpes. On a l'habitude d'imaginer. Alors bon, on a toujours cette image des éléphants, c'est quand même l'image d'Épinal de l'affaire. Mais cette traversée des Alpes ne s'est pas faite exactement là où on le croit, nous dites-vous.
Non, elle s'est faite, elle s'est faite à peu près dans le massif du Mont Cenis. En gros, c'est la conclusion à laquelle ont abouti la plupart des historiens. Mais moi, j'ajoute, tant qu'on n'a pas trouvé de vestiges concrets, du genre squelette d'éléphant, ou après tout on trouve bien des mammouths en Sibérie, on peut peut-être trouver le squelette d'un éléphant carthaginois quelque part dans les Alpes. Tant qu'on n'a pas cette preuve concrète, on ne peut pas dire avec assurance tel a été le chemin d'Hannibal. Mais le problème, c'est que les textes anciens qu'on a évoqués tout à l'heure nous ont parlé du chemin en le décrivant. Et là, il faut bien se rendre compte qu'il n'y avait pas d'autoroute, qu'il n'y avait pas évidemment les villes qui existent actuellement dans les Alpes, et que même l'école ne portait pas le nom qu'ils ont aujourd'hui. Donc, en mettant bout à bout comme un Lego, telle description, telle autre description, on trouve que, en gros, il a suivi la vallée de l'Isère, contourné le massif de la Vanoise et le massif du Mont Cenis, et pour aboutir au col du Mont Cenis. Pourquoi ? C'est parce que nous avons par ailleurs presque une certitude qu'il avait, en débouchant en Italie, suivi la Douare Ripère. La Douare Ripère qui est un ruisseau qui descend des Alpes et qui va aller tout droit vers ce qu'on appelle aujourd'hui Turin, et qui était la plaine des Taurini dans l'Antiquité.
C'est le côté toujours très passionnant de la reconstitution des routes mouvements de l'Antiquité
donc,
aujourd'hui.
Donc il y a des historiens comme Serge Lancel qui disent que en fait, en précisant bien, ce n'est pas le col du Mont Cenis, c'est juste un petit col à côté qui s'appelle Sabine Coche. Mais que vous ne trouverez pas une coche, c'est vraiment un tout petit
col. Je pense que nous avons peut-être des auditeurs dans la région et que eux trouveraient. Si vous le voulez bien, dans un instant, on en revient à Rome et on essaie de voir à quoi ressemblait la Rome du 3e siècle avant notre ère.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Le Carthaginois Hannibal est à l'honneur aujourd'hui sur Europe 1.
On en parle. Musique piplum, hein,
exactement. C'est une signature aujourd'hui sur l'émission. On en parle avec Habib Boularès et Sandrine Crouzet, Franck.
Alors, je voulais que nous y revenions, Habib Boularès, avec un peu de temps. C'est pourquoi j'ai envoyé cet écran de publicité avant. C'est très important de comprendre que la Rome à laquelle se heurte Hannibal et celle qu'il défie littéralement n'est pas encore aussi installée que le sera plus tard l'Empire romain auquel nos consciences et nos habitudes sont évidemment très très familières. La Rome en question, c'est une Rome qui est encore un peu en formation et l'on ne sait pas encore qui va obtenir l'hégémonie sur le bassin méditerranéen à l'époque.
Tout à fait, mais avec une précision. Rome à l'origine est une cité-état paysanne, attachée à la terre. Et quand elle a commencé à s'agrandir, elle a commencé d'abord par s'agrandir aux dépens de ses voisins, les Samnites, toutes les populations
Donc toute la péninsule
des Apennins.
Oui, bien sûr.
Pas toute la péninsule, c'est de Rome vers le sud. Mm-hmm. Puis il y a eu l'apport des Étrusques pour Rome, et ça a été quelque chose d'assez important. Mais Rome ne dominera la totalité de l'Italie qu'après la première guerre punique. C'est là où elle va conquérir le nord, la Lombardie et toute la Padanie, comme on l'appelle maintenant. Et elle n'a pas encore dominé la Sicile. En plus de cela, avant la première guerre punique, Rome ne disposait pas de marine, ce qui situe bien que Rome est une
puissance terrienne.
Cité terrienne. Mmh. Et elle va se doter de marine avec la première guerre punique, en copiant, pour l'anecdote, un bateau punique qui avait échoué sur des côtes.
Et oui, parce que les Carthaginois...
Mais Rome, il faut dire une chose, moi je suis un avocat d'Hannibal, mais je reconnais la valeur de l'adversaire aussi, c'est que Rome va montrer une ténacité et une volonté de vaincre telle que, par exemple, pour la marine, à 4 reprises, elle va reconstituer sa marine. Chaque fois, sa marine est détruite par des tempêtes ou par des batailles et elle a reconstruit de nouveau, ce qui lui a permis effectivement de remporter finalement la victoire des îles Égates qui avait mis fin à la première guerre.
Puissance maritime contre puissance terrienne, les stratégies romaines, tous les instruments militaires que la République romaine de l'époque a à sa disposition sont déjà très avancés et très aboutis en quelque sorte, Sandrine Crouzet.
Oui, effectivement, puisque Rome, depuis, on va dire, au moins le début du 4e siècle, est en guerre quasiment chaque année, avec des adversaires au nord, puis progressivement de plus en plus au sud, et qu'elle se forge des nouvelles armes stratégiques au fur et à mesure qu'elle rencontre de nouveaux adversaires. Donc la rencontre avec Pyrrhus, par exemple, au début du 3e siècle, c'est sa rencontre avec les éléphants. Donc ce qui fait que quand les Romains, après, voient les éléphants d'Hannibal, ils n'en voient plus beaucoup d'ailleurs, parce qu'il n'y en a plus beaucoup quand il arrive.
Ils sont morts dans les marais.
Disons que ça n'est pas une nouveauté. En revanche, il y a quelque chose de très important dans la constitution des armées. Tout à l'heure, vous avez bien parlé du problème de cette masse d'hommes qu'il faut nourrir et qui explique sans doute les déplacements d'Hannibal dans la péninsule italienne. L'armée d'Hannibal et l'armée de Rome ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Chez Hannibal, on a d'abord des mercenaires qui sont entraînés, donc qui sont payés, ce qui peut expliquer, tant qu'il y a de l'argent, qu'ils suivent leur chef. Et ensuite, on a des peuples d'Italie qui passent aux côtés d'Hannibal de façon, entre guillemets, libre. Mm-hmm. D'un autre côté...
Qui s'associe à lui, en fait.
Voilà, qui décide de s'associer à lui. Et pourquoi est-ce qu'il s'associe à lui? Parce qu'Hannibal a un discours sur la liberté des cités italiennes, une liberté qu'il leur propose de retrouver pour contrecarrer, en fait, le système de domination que Rome a mis en place en Italie, qui est un vrai assujettissement, puisque, en fait, Rome prend les cités ou leur propose un faux Doubs, c'est-à-dire un accord. Et à ce moment-là, elle leur impose, à partir du moment où l'accord est signé, elle leur impose d'envoyer chaque année un certain nombre d'hommes à Rome. Donc on est dans le cadre d'un service militaire contraignant, et ce qui explique aussi les défections des cités d'Italie pour passer du côté d'Hannibal.
Ce que je vais vous demander est très difficile, évidemment, mais si on devait résumer la stratégie qu'a employée Hannibal à Cannes, et qui, semble-t-il, inspirera tellement de chefs militaires par la suite et jusqu'à une époque très contemporaine, comment est-ce qu'on pourrait la résumer? Quelle est son attitude à Cannes?
Alors,
encore une fois, pour ceux qui nous rejoindraient, quand je parle de Cannes, ça n'est pas la Cannes que nous connaissons, nous,
bien sûr.
Côte d'Azur. C'est Cannes en Italie,
voilà,
c'est tout près de l'Adriatique.
Dans les Pouilles, en fait.
Oui, voilà.
Exactement. Donc, c'est une stratégie d'encerclement qui consiste à placer, on va dire, les forces les plus rapides et les plus sûres, entre guillemets, sur les ailes, c'est-à-dire sur les côtés de l'armée, de faire reculer...
On laisse un ventre mou, en quelque
voilà,
sorte.
Voilà, en fait, c'est plus que ça. En fait, le ventre n'est pas si mou que ça, mais on fait semblant d'avoir un ventre mou, on fait reculer le centre de l'armée, la ligne centrale, ce qui fait que l'adversaire avance et finalement ensuite on fait avancer les côtés de l'armée, les ailes, et on prend en tenaille l'armée adverse. Alors c'est une stratégie qui n'est pas neuve, on la connaît par exemple chez Alexandre, vous avez cité tout à l'heure Alexandre. On la voit aussi pendant la première guerre punique, elle est utilisée par les navires carthaginois lors des batailles navales, et donc Hannibal est dans la suite,
une tradition,
voilà, dans une tradition militaire qu'il perfectionne sans doute et que Scipion va reprendre après lui lors de la bataille de Zama.
Habib, comme il nous reste très peu de temps, j'aimerais vous poser une question importante. Vous nous avez parlé d'Hannibal comme homme de culture, comme diplomate, comme personnalité, c'est un polyglotte, nous avez-vous dit, etc. C'est aussi, et peut-être grâce à toutes ces qualités un peu oubliées aujourd'hui, qu'il reste une sorte de héros de nos jours et pour des peuples les plus inattendus. Vous me disiez que au Japon, par exemple, on adore Hannibal.
Au Japon, on adore Hannibal. En Corée, on adore Hannibal. Mon livre a été traduit en coréen. Et il y a des clubs Hannibal au Japon parce que les Japonais considèrent que la lutte d'Hannibal au 3e siècle, 2e siècle avant Jésus-Christ, correspond un peu à leur attitude à eux vis-à-vis des Américains et de leur hégémonie sur le monde. Mais je voudrais quand même rappeler un point, c'est que, très important, c'est que Capoue était en réalité...
La ville de Capoue qui s'allie donc à Hannibal. Hein.
Oui, mais c'était l'alter ego de Rome à l'époque. Rome n'était pas encore le centre d'un empire. Et l'histoire a hésité longtemps pour savoir si c'est Capoue ou si c'est Rome qui va avoir l'hégémonie sur l'Italie. Et que donc la destruction de Capoue par les Romains, parce que quand les Capouans ont ouvert leurs portes et ont fait entrer l'armée romaine, 400 notabilités de Capoue ont été décapitées. Et l'histoire, c'est un livre qui nous la raconte. Le Sénat romain a envoyé un ordre aux conquérants romains de Capoue pour lui dire d'arrêter ce massacre. Et il a refusé de le lire avant la fin du massacre.
Habib Boularès, Hannibal, c'est un très bel... j'allais dire, c'est pas seulement une biographie, c'est quasiment un essai plus général. Merci.
C'est une thèse.
C'est une thèse, voilà, qui est publiée chez Perrin. Très bel ouvrage. Et puis, je me suis inspiré de Hannibal, une incroyable destinée de Jean-Claude Belfior. Ça, c'est un... Alors là, pour le coup, c'est une biographie très relativement factuelle et très claire qui est publiée chez Larousse. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cette époque tellement lointaine et qu'on aurait presque tendance parfois à oublier. Hannibal, j'en suis certain, est devenu maintenant une figure un peu plus claire pour nos auditeurs. Bonjour Elena.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler de fin d'histoire d'amour, nous allons parler de divorce. Divorce parfois très difficile à encaisser pour les uns, pour les autres. Je parle des conjoints, mais aussi des enfants. Alors comment simplifier les procédures? Est-ce vraiment possible de simplifier ces procédures? Quelles sont les conséquences financières ou psychologiques? On en parle avec les experts. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser vos questions ou à témoigner au 3921, c'est 34 centimes la minute.
Merci beaucoup Elena. Alors nous nous retrouvons bien sûr demain, Julia, mais
bien
avant
sûr,
ça, je retrouve les téléspectateurs de France 3 ce soir pour une émission consacrée à Meyerling.
Juste après le match de foot, aux alentours de 23h15, restez...
S'il n'y a pas de prolongation.
Oui, mais c'est tellement plus intéressant l'histoire finalement. À demain Franck, vous êtes bien sur Europe 1, 14h.
Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre.
Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1, alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun.
Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion.